Actu SF, les podcasts.
Bonjour et bienvenue à cette heure matinale pour parler d'un sujet intéressant mais complexe. C'est-à-dire la reproduction du futur. Je vais commencer par présenter nos panélistes et invités. Moi, c'est Sylvie Denis, mais c'est pas très. Donc, nous avons avec nous ce matin Thierry Harvé, qui est gynécologue-obstétricien, chef de service à la maternité des Diaconesses, qui est à Paris, qui est également président de Solipam, une association qui s'occupe des femmes enceintes en grande précarité. Donc, il pourra nous parler de son métier et des implications avec les nouvelles techniques de procréation. Nous avons Judith Nicoglossian, qui est anthropologue de la santé, anthropobiologiste, mais également chroniqueuse et également auteure d'ethnofiction, que l'on peut lire notamment dans la revue Ouzbek Erika. Et enfin, notre auteur de science-fiction du jour, du matin, Sylvie Lainé, qui dans la vie civile est professeure de sciences de l'information et de la communication à Lyon, et qui est une grande auteure de nouvelles françaises, qui a eu au moins autrice, c'est vrai. Non, je suis triste pour l'étymologie. On n'en parlera pas aujourd'hui. Qui a obtenu 2 fois le Grand Prix de l'Imaginaire et, pour autant que je sache, 5 fois le Prix Roniéné. 4 ? Ah bon, 4. Pour des nouvelles qui sont d'une grande finesse, d'une grande délicatesse d'écriture et d'une grande précision et intérêt des idées. Donc, un sujet pas simple, puisqu'on nous a chargé de clonage et utérus artificiel. Le problème étant que le clonage étant la technique que l'on connaît essentiellement à travers le roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, puisque c'est la technique qui est utilisée pour produire en masse les citoyens qui seront ensuite conditionnés pour vivre dans cette société où soi-disant tout le monde est heureux. On possède certaines techniques de clonage qui nous ont donné la brebis Dolly que vous devez connaître en 96, qui est morte avec de l'arthrite et un vieillissement un petit peu précipité. Elle avait été fabriquée à l'aide du matériel génétique d'une cellule mammaire qui a été transférée dans dans l'ovule, voilà, d'une autre brebis, qui est une des possibilités de clonage. Il n'y en a pas qu'une seule. Ce qui est ça ouvre la porte à des animaux transgéniques où on transfère une seule partie du matériel génétique. On a cloné d'autres animaux, comme des chevaux, comme des taureaux, des vaches, des cochons, des chats, des rats. Et on a amené des embryons humains jusqu'à 13 jours, ce qui est très 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 peu. Donc on est quand même loin de pouvoir cloner des êtres humains, mais on s'en rapproche. Donc j'ai parlé du meilleur des mondes. Vous avez peut-être vu la série Orphan Black, où une compagnie crée une série de clones et les élèves pour des fins pas très catholiques. On a également vu le roman de Kazuo Ishiguro où cette fois le clone est produit pour servir de remplacement, de soutien, etc. À une personne, ce qui est très souvent le cas. C'est le cas par exemple dans Frères de chair de Michael Marshall-Smith, et on a également d'autres exemples d'utilisation du clone, où on part du principe qu'il va être identique, alors qu'en fait la science montre qu'il ne l'est pas exactement, et qui va servir essentiellement d'utilisation. Donc je vais essayer d'abord de traiter le clone, et éventuellement après d'aller vers vers l'ectogénèse, qui est le développement du fœtus et de l'enfant en dehors du corps féminin. J'avais tout de même envie de demander à Thierry Harvey quelle était la spécificité de la maternité dans laquelle il travaille. Pourquoi est-elle choisie par les femmes qui décident d'y accoucher? A-t-elle quelque chose de particulier?
Ah. Voilà, on fait un petit moment de trapèze et un tour pour arriver à chacun se passer un micro. Oui, non, j'ai une maternité qui est parisienne, qui est un peu connue dans l'est de Paris, une espèce de triangle entre trois maternités qui sont les Lilas, les Bluets et nous. Où on a été axé il y a une cinquantaine d'années sur la physiologie et le respect d'un certain nombre de choses quand j'ai pris la direction de cette maternité, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a 25 ans, on faisait 1000 naissances, on est passé à plus de 2005, etc. etc. Donc voilà, donc on a une maternité standard, on augmente les locaux en 2020 et on a une néonatologie en 2022. Donc voilà les projets futurs. Tu as parlé tout à l'heure de Solipam. Solipam veut dire Solidarité Paris Maman. Je suis président de cette association, qui est francilienne maintenant, qui prend en charge des femmes en situation de grande précarité. C'est facile, c'est j'attends un bébé, je dors dans l'abribus. C'est basique. Et on essaye d'arriver à leur trouver un logement à peu près stable, près d'une maternité à peu près stable, et ce jusqu'aux 3 mois de l'enfant né. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, mais c'est déjà plein, les journées de Solipam, mais c'est visible sur notre site, solipam.fr, ont lieu le 22 novembre prochain. Donc voilà, ça c'est fait, je me suis présenté. Alors après, comme j'adore avoir le micro et que ça c'est absolument insupportable quand je l'ai, je crois qu'il y a des choses à définir en termes de clonage. Il y a d'abord ce qui s'appelle le clonage thérapeutique, qui est quelque chose qui est utilisé et qui est absolument génial. C'est de partir à partir des cellules souches. Vous savez qu'on est tous a priori issus dans cette salle d'un spermatozoïde, d'un ovocyte. Donc à un moment, il y a une cellule qui se développe, qui se coupe en deux, en deux, en deux, en deux, etc. Et donc les cellules vont se différencier pour donner ce qu'on est là, assis autour de la table et assis devant vous. Ces cellules qu'on appelle totipotentielles, on les trouve dans le cordon. Et maintenant, on commence dans le cordon du fœtus, et on commence à savoir les différencier, c'est-à-dire un moment pour faire de la peau artificielle, du muscle artificiel, etc. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le clonage thérapeutique. Ça marche plutôt pas trop mal, et c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose dont tu as parlé, qui est le clonage reproductif. Alors pour revenir à Dolly, avant d'arriver à Dolly, il y a quand même environ 200 brebis qui sont parties au tapis avant d'arriver à elle. Et elle est décédée d'un vieillissement précoce. Donc les essais ont été nombreux, 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 nombreux avant d'arriver à Dolly. Donc après Dolly, il a fallu récupérer un ovocyte. Alors il y a une différence, mesdames, messieurs, entre nos spermatozoïdes qui sont assez faciles à recueillir. Donc à la force du poignet, il y en a pour quelques secondes, par contre, ou plus longtemps, en fonction de l'âge. Et sinon, pour mesdames, vos ovocytes ont l'inconvénient d'être cachés à l'intérieur. Et donc ça, c'est quelque chose qui devient compliqué. Je ne vais pas revenir sur la PMA, mais il y a des risques dans la fécondation in vitro lorsqu'on ponctionne. Donc on récupère l'ovocyte, mais dans l'ovocyte, il y a d'abord une cellule où il y a la moitié des chromosomes, et il y a aussi d'autres choses dedans. Et c'est pour ça que le clonage, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas de prendre une cellule différenciée d'ailleurs et d'arriver à la détourner pour donner un embryon. Il y a aussi les mitochondries, puis il y a d'autres choses dont on parlera si vous le souhaitez, qui est l'épigénèse. Donc d'emblée, dans le mot clonage, il faut séparer le clonage qui est dit reproductif, qui est, on s'est dit, on va se faire des photocopies, on va se cloner à l'infini, ce qui est totalement impossible, puisque vous avez les facteurs environnementaux, vous avez ce qui s'appelle l'épigénèse, qui va changer plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc le clonage thérapeutique, celui-là, on le garde de côté, c'est quelque chose de bien. Et je te repasse la parole, sinon je peux parler pendant une heure comme ça.
Oui, mais non. Mais je pense que c'est intéressant de parler d'épigénèse, parce que justement, le fantasme dans la science-fiction du clone qui est la reproduction, qui est une copie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort et de prégnant. On le retrouve dans, ne serait-ce que dans Matrix, où il semble possible d'avoir des quantités illimitées d'humains qui vont être utilisés comme des espèces de piles électriques, et ça semble, ça fait des belles images, mais je ne suis pas sûre. Voilà, ce serait intéressant de savoir pourquoi ce n'est qu'une belle image, et peut-être de savoir, en sachant plus sur l'épigénèse, comment on pourrait l'utiliser dans la science-fiction après tout.
Alors juste un mot sur l'épigénèse pour ceux que ça intéresse. Vous allez sur le site qui s'appelle la DOHAD, D-O-H-A-D, et donc vous allez avoir tous les travaux qu'on mène là-dessus. En partie, donc l'intérêt, c'est de voir ce qui va se passer au fur et à mesure des générations. Et donc on parle du tabac, on parle de tous les phares. On va pas rentrer dans le glyphosate et autre chose du genre. C'est pas le but de la table ronde aujourd'hui, mais tout ce qui est autour, c'est évident que ça va modifier les choses. Une femme enceinte qui picole, une femme enceinte qui fume, ça ne va pas exactement donner le même enfant que celle qui ne boit pas et qui ne fume pas. Je vous rappelle donc récemment, on a dit que le tabac, c'est zéro pendant la grossesse. Ça fait un bout de temps qu'on essaye de le dire. L'alcool, pareil. Donc après, vous faites ce que vous voulez.
J'avais envie de demander aux auteurs à côté et à l'anthropologue si le clone était un personnage, un thème qui éveillait chez elle des intérêts. Et moi, ça, en tant qu'auteur, ça m'intéresse pour le thème du double, mais tout le monde n'est pas titillé par le double. Judith ?
Alors, en tant qu'anthropologue, le clone, ça m'évoque tout d'abord une certaine forme de gémilité dont les occurrences apparaissent réellement en réalité et avec toutes les problématiques qui sont éventuellement liées à ce phénomène biologique. Mais après, sinon, vraiment, hormis des récits de la science-fiction, George Orwell, The Brave New World et tout ça, où on fonderait des catégories alpha, bêta, gamma, déclinées comme ça en caste aux prédéterminations génétiques, ça ne m'évoque pas grand-chose. Alors, bien sûr, il y a le Fertility Institute of Chicago, qui est un centre de fertilité, un centre de fertilité où il est possible, pour le prix d'une voiture, $50,000, de customiser son enfant et de choisir la couleur des yeux et le sexe, notamment. Sans, pour le moment, de traits caractéristiques, de propriétés de caractère. Il n'y a que deux pays qui l'autorisent occidentaux. Le premier sont les États-Unis et le deuxième, c'est Israël, à condition d'avoir déjà 4 enfants du même sexe. Dans ce cas, on peut choisir le sexe de son 5e enfant. Le pape, le pape, paraît-il, aurait passé un coup de téléphone au Fertility Institute of Chicago pour dire non, mais pas la couleur des yeux quand même, là, non. Voilà. C'est tout ce que ça m'évoque, moi, pour le moment.
Pour revenir là, c'est facile. La façon dont le choix du sexe se fait, en particulier en Israël, c'est on passe toujours par une aide médicale à la procréation avec une centrifugation du sperme qui va permettre d'avoir un culot dans lequel il y a 95 chances sur 102 et l'autre 5%. D'abord, parce que les spermatozoïdes masculins et féminins n'ont pas exactement le même poids. Alors, c'est pas le mettre sur une balance comme ça pour faire le tri. Après, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir ces embryons. Donc, on les fait se développer jusqu'au stade 8 cellules. On prend une des cellules, on congèle les 7 autres. On va cloner cette cellule, cloc, 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 cloc. Et puis, on va regarder dessus si c'est un garçon ou une fille. À ce moment-là, on va réimplanter le garçon ou la fille. Ça se fait aussi dans d'autres pays, pas très loin, en Belgique. Voilà. Mais ça, on est dans le diagnostic préimplantatoire. Et ça permet de choisir le sexe de son petit.
Alors pour le moment, il y a des lois de précaution éthique qui sont là. C'est la loi des 14 jours, hein, c'est ça, qui interdit l'expérimentation,
le développement
d'un embryon à l'extérieur de la matrice utérine plus de 14 jours. Donc je crois qu'il y a 24 pays dans le monde qui se collent à cette loi. Et pour le moment, donc, ça pose une réglementation très précise pour ne pas aller au-delà de ça. Mais en sachant que finalement, les découvertes scientifiques permettront de plus en plus de dépasser ce temps-là à l'entrée et de même qu'à l'arrivée, les bébés pourront être de plus en plus prématurés. Donc il serait tout à fait envisageable que dans un futur assez proche, on soit capable effectivement de faire se développer un embryon à l'extérieur du corps de la mère.
Oui, je voudrais juste repréciser une chose, c'est que le premier, celle qu'on a appelée le premier bébé éprouvette, Amandine, c'était en 1992, ce qui finalement est à la fois loin... Oui, bien sûr, qui est à la fois loin et pas loin du tout. Donc on a eu une évolution de la technique rapide.
Certains auteurs comme Henri Atlan, justement, ont réfléchi à cette problématique en pensant honnêtement qu'il est tout à fait possible d'arriver à obtenir une externalisation de la reproduction du ventre de la mère, de la femme, mais que du coup ça pourrait aussi encourager certaines déviances génétiques, parce que en adjonction avec d'autres technologies comme celle génétique, on pourrait alors tout à fait envisager de pouvoir customiser les qualités de son bébé à naître. Et même si l'argument c'est ça, même si vous vous dites non, moi je ferai jamais ça, je veux laisser la chance et le hasard se faire, si vous avez tous vos voisins qui ont des enfants qui sont champions de tennis, virtuoses au piano, champions d'escalade, grands mathématiciens, etc., est-ce que vous allez prendre le risque de laisser la chance aux choses et de faire en sorte d'avoir un enfant qui pourrait avoir certaines déficiences, au moins en regard des autres, de façon comparative? C'est un peu la question.
Oui, je voulais juste préciser que la raison pour laquelle on peut commencer à envisager ce genre de développement, c'est que des laboratoires et des cliniques développent des techniques pour permettre à des enfants très grands prématurés de survivre. Donc on a par exemple l'exemple d'un laboratoire à Philadelphie qui a fait, vous avez peut-être vu des images dans la presse, qui a fait se développer un agneau jusqu'à 28 jours. L'image est effectivement assez étonnante puisqu'on voit un agneau entier formé, quatre pattes, etc., dans un sac en plastique avec des tuyaux partout, lequel est censé remplacer le liquide amniotique et l'environnement qu'il aurait dans le ventre d'une chèvre. Ces choses-là existent et sont étudiées. Après, va-t-on en avoir besoin et pourquoi ? Et est-ce que ça n'est pas effectivement un besoin uniquement des sociétés riches et industrialisées ? Oui, tout à fait.
Alors, moi, j'allais dire que en tant qu'auteur de science-fiction, quand on joue avec une idée, en général, on aime bien la faire passer à une échelle globale, et voir ce que ça donne au niveau d'une société, justement. Et une idée comme le clonage, elle est restreinte au sens où ça peut difficilement dépasser le stade de l'expérimentation relative à une personne, une famille, un individu. Parce que si tout le monde se met à se cloner, d'abord on se demande à quoi ça servirait, et puis on est déjà beaucoup trop nombreux sur Terre et le processus reproductif classique marche suffisamment bien. Si en plus de la reproduction on a du clonage, on va très vite se retrouver à beaucoup beaucoup plus de millions sur cette planète que la planète ne peut en faire vivre. Donc après il reste les expérimentations. C'est une super idée pour faire des expérimentations. Moi dans ma nouvelle Mélomania, j'ai une fille qui se fait pousser une main pour rendre service à son frère qui a été amputé. C'est le genre de chose qui techniquement est pratiquement déjà possible. Oui, c'est du clonage thérapeutique à peine extrapolé, à peine poussé. Bon, un peu dans l'histoire, mais pas sur l'aspect purement médical. Et le thème du double, on peut jouer avec maintenant, avec les univers virtuels, d'un tas de manières. On peut jouer avec l'idée autrement qu'en passant par la biologie et la génétique. on peut jouer avec l'idée d'avoir des doubles. Moi, j'avais fait ça dans une de mes nouvelles, qui soient des hologrammes, par exemple. Mais très vite, on arrive à l'idée qu'il y a deux questions, justement. Il y a cloner l'enveloppe biologique, le corps, comme on l'a fait avec la brebis, par exemple, où il s'agit de recréer le même individu, mais quand on a un être humain, le problème, c'est que pour avoir la même personne, il faut...
C'est impossible.
Il faut les mêmes souvenirs, il faut le même environnement. Il y a, dans la construction d'une personnalité, il y a de l'inné et de l'acquis. Peut-être qu'une part de l'inné est portée par les chromosomes et les cellules, et déjà potentiellement dans les cellules souches, mais l'acquis, sûrement pas.
On a l'exemple avec les vrais jumeaux, qui sont génétiquement semblables. Mais pour autant que je sache, si on a tous connu des jumeaux, on s'est bien rendu compte qu'ils n'étaient pas exactement semblables. Vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, tout à l'heure, quand on parlait de clonage dans le monde animal, en médecine vétérinaire, donc vous savez que la plupart des veaux ne sont pas obtenus par fécondation habituelle. Donc, ce qu'on fait à l'heure actuelle pour des problèmes de rentabilité, lorsque vous allez avoir un embryon de veau, au moment où la cellule va se diviser en deux, on va pouvoir avoir deux veaux identiques, voire même éventuellement attendre la division supplémentaire, ce qui va permettre de réimplanter successivement des veaux, etc. Donc, par contre, il y a quelque chose, j'ai bien compris, l'embryon jusqu'à 7 jours, etc. Donc, il faut revenir sur la physiologie de base. La fécondation, elle a lieu à un temps X. L'œuf va se développer dans la trompe et descendre tranquillement pour aller se nider dans la muqueuse. Nider veut dire qu'à un moment, il va y avoir une orientation de l'embryon avec des cellules qui vont se coller, qui vont rentrer et qui vont se cacher sous la muqueuse. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, dans le monde plastique et autres, n'arrive pas à avoir lieu. L'histoire de l'embryon après de la brebis, on le récupère après, on lui met ses tuyaux après. Donc il y a tous ces échanges qui ont lieu dans l'embryogenèse, qui a lieu jusqu'au 60e jour dans l'espèce humaine, qui sont difficilement reproductibles. Quand à un moment, on nous dit fécondation in vitro et transfert d'embryon. Je vous renvoie à ce que disait France Quéré, qui était au premier comité d'éthique, qui parlait de gruau cellulaire. Okay, c'est un paquet de cellules. J'ai eu l'avantage d'avoir connu France Quéré aussi. Ça, c'est un grand moment. Et donc, c'est un gruau cellulaire qui va s'implanter. On ne peut pas, pour le moment, en dehors de la matrice, arriver à quelque chose. Et puis, dernière chose, quand on fait des FIV, ce qui est notre cas chez nous en tout cas, le taux de succès d'implantation, il n'est pas énorme. Dans les meilleurs cas, on arrive à 30%, c'est-à-dire que 70% des embryons qui sont tout beaux, tout bien, qu'on va réimplanter dans l'utérus, ne vont pas se nider. Donc voilà, tout ça, c'est des points qui sont importants. Donc je veux bien qu'on fantasme loin, loin, loin dans plein de choses sur l'embryon, etc. Mais à un moment, l'embryon, c'est pas parce qu'il est dans sa boîte de pétri, dans son milieu particulier, on va pas très, très loin avec. Donc,
et est-ce qu'on sait pourquoi ça marche pas à ce point-là ? Est-ce qu'on étudie pourquoi ?
Ouais, bien sûr.
C'est intéressant.
Tout à fait. Tous les phénomènes d'implantation, on les étudie, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Je ne vais pas vous faire un cours d'embryo là aujourd'hui. Bon, d'accord. Donc vous l'avez...
Un tout petit cours.
Non, mais un tout petit cours d'embryo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste je vous ai dit tout à l'heure qu'on partait de deux cellules, etc. Sauf qu'à un moment, il va y avoir tout un paquet de cellules qui va s'orienter, qui va être pour l'anidation, qui va être le syncytiotrophoblaste, qui après va donner le trophoblaste, qui après va donner le placenta. Vous l'avez voulu. Et puis après, de l'autre côté, vous avez le bouton embryonnaire qui après va ressembler à un petit paquet. Puis après, ça va ressembler à un sandwich avec deux trucs, puis un sandwich avec trois paquets. Et puis après, vous imaginez quand vous faites votre sandwich, vous l'aplatissez avec le rouleau, puis après, vous le roulez sur lui-même. Et donc, vous allez voir l'intérieur du sandwich qui va donner l'intérieur, que ce soit les viscères, etc. La partie milieu du sandwich qui va donner ce qui sont les muscles. Et puis, vous allez avoir la partie superficielle qui va donner la peau, etc. Et tout ce qui est le système nerveux. Donc, ça ressemble à un tube. Okay, je vous renvoie sur la métamorphose des tubes. Fait l'autre qui a un chapeau là quand elle vous parle une fois par an au moment des prix littéraires. Et donc voilà, après, j'ai pas donné de nom parce que ça se fait pas. Et donc voilà, donc il y a tout ça à voir en ligne de compte après que l'embryon après va se différencier. On est à des kilomètres d'arriver au-delà de. Bon, on a fixé à 14 jours, mais l'interaction avec la muqueuse utérine et avec tout l'environnement utérin, quel qu'il soit. Alors, est-ce qu'on va mettre un embryon humain dans un utérus de vache? J'en sais rien. Est-ce qu'on va cloner, etc. Quand je fais le cours à la fac, là, justement sur la reproduction, je termine après l'histoire de la brebis de lit en disant, OK, maintenant, on va fantasmer un petit peu plus loin. Vous allez aller vous promener dans le permafrost quelque part chez nos amis soviétiques. Vous allez récupérer des cellules d'un mammouth. Okay, vous allez récupérer un ovocyte de chimpanzé et puis vous allez réimplanter le tout dans une femme. Est-ce que la femme va accoucher d'un ovocyte qui va ressembler à un truc de chimpanzé ou elle va mettre au monde un mammouth? Je vous laisse voir en mélangeant tous ces trucs-là. Là, ça vous donne un sujet de nouvelles rigolo. Vous allez pouvoir faire...
Oui, donc, voilà, donc, c'est gore.
Non, c'est pas gore, le problème, c'est vraiment...
Ceci dit, quand même, moi, je suis d'accord avec vous et pas d'accord avec vous, en fait. Donc,
tant mieux.
Dans le sens où... Premièrement, à quel âge un fœtus prématuré est viable aujourd'hui?
À l'heure actuelle, alors c'est la viabilité, on est passé, quand j'étais interne dans les années 80, on ne prenait pas en charge les nouveau-nés en dessous de 6 mois et demi. À l'heure actuelle, la barre est à 5 mois et demi, aux alentours de 23-24 semaines d'aménorrhée. En termes de prise en charge active...
Il y a 50 ans en arrière, un prématuré était viable...
6 mois. La loi Napoléon, c'est 6 mois.
Il y a 100 ans
La loi Napoléon, c'est 6 mois. On sait là qu'il n'y a pas... C'était à 6 mois de grossesse. Dans le code Napoléon. C'est là où on pensait qu'on pouvait en avoir certains qui allaient survivre. Après, le problème, ce n'est pas d'être vivant.
Il y avait vraiment un taux de survie.
Il y a vivant.
Et dans quel état?
Et vivant avec séquelles. Et donc, là aussi, pour ceux qui s'intéressent, vous avez les deux études françaises qui sont épipage 1 et épipage 2, où vous allez voir les progrès qui ont été faits en termes de réanimation néonatale. Mais on arrive à un moment, à une barrière, c'est-à-dire que nous, on baisse les bras, donc on a un abandon thérapeutique à 23 semaines. Et l'abandon thérapeutique, il va aussi dépendre entre 23 et 24 semaines, qui est ce qu'on appelle la zone grise, en fonction du sexe de l'embryon, enfin du fœtus plutôt, parce qu'on n'est plus l'embryon, ça s'arrête à 60 jours, et du poids. C'est-à-dire que si c'est un garçon, on va moins se battre, parce que mesdames, les filles, jusqu'à priori, c'est vous qui donnez la vie, et vous êtes bien plus solides que nous, sinon nous, on ne serait pas là, respect pour nos mères. Et donc, si un fœtus de sexe féminin de plus de 650 grammes, on va s'orienter vers une réanimation active. Un fœtus masculin de moins de 600 grammes, on ne va pas s'abandonner, on va partir sur un abandon thérapeutique et des soins palliatifs.
D'accord. Ceci dit, les embryons prématurés sont beaucoup plus viables aujourd'hui, ils peuvent survivre, alors qu'avant, ce n'était pas possible.
On a changé milieux de culture.
On recule les limites énormément. Le passage du 20e au 21e siècle a permis beaucoup de progrès médical. La découverte des rhésus, des groupes sanguins, de l'anesthésie, etc., les couveuses, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on a quand même une grande tendance, une tendance très très forte, à reculer les limites de chaque côté.
Mais
après, aujourd'hui, il y a des préconisations éthiques qui sont claires, bioéthiques qui sont claires. On dit non, réglementation ne dépassera pas telle durée. Mais dans les faits, ça pourrait devenir possible et envisageable. Tesla en le confirmait lui-même.
Oui.
Atlan, enfin, ces grands spécialistes...
Je connais bien les deux. Mais on en est quand même très loin. On est dans l'imaginaire, on en est loin.
La question que je me poserais, c'est que est-ce que les possibilités qu'on a déjà de faire survivre des très grands prématurés, est-ce que ça a déjà changé le comportement des gens quand ils arrivent soit à la maternité ou quand ils consultent?
Bien sûr.
Bien sûr,
c'est pour ça que dans les années 98, on a stratifié les maternités en trois types, qui sont les maternités type 1, type 2, type 3. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de niveau de maternité, qui sont en fonction d'avoir une réanimation néonatologique. Donc là, c'est pour vous occuper des enfants en dessous de 7 mois, 32 semaines. Et avec la frontière, je vous dis qu'il y a besoin de 24. Et après, vous avez les maternités type 2 qui s'occupent de 7 mois jusqu'à 8. Donc ça c'est, oui, les choses ont changé. Je l'ai vu au cours de ma vie. Mais après, il y a survie sans séquelles. Et voilà. Et à l'heure actuelle, là où on est vraiment, entre guillemets, très à l'aise, là où on n'était pas il y a longtemps, c'est à partir de 6 mois. À 6 mois, on est à 95% de survie sans séquelles lorsque l'enfant est né dans de bonnes conditions, au bon endroit, avec une prise en charge immédiate correcte. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui... Ok, on peut jouer, avoir des paquets de cellules, etc. Mais l'embryon, à un moment, doit s'implanter. Et le problème, c'est qu'on est dans un milieu de culture et les échanges qui doivent se faire avec la matrice, hein, on va recommencer avec Matrix, là, pour le moment, en termes d'artificiel, on en est, ça ne marche pas.
Les nouvelles technologies de la reproduction permettent aujourd'hui une confusion de filiation un petit peu gênante. Mmh. On peut faire congeler les ovocytes de sa grand-mère.
Oui, enfin, les ovocytes de sa grand-mère.
On peut encore qu'ils soient faits.
La grand-mère soit jeune.
C'est-à-dire que là,
j'ai pas voulu faire de liste la quantité de combinaisons est telle que c'est pas infini.
Un enfant peut se retrouver, je crois qu'une anthropologue Escher avait déterminé qu'un enfant peut se retrouver avec 5 liens de parenté différents. En supposant qu'il y ait une donation d'ovules, une donation de gamètes mâles, une mère porteuse, et puis je ne sais plus quoi. Donc c'est vrai qu'on se retrouve en anthropologie face à une problématique gênante, sans extrapoler l'utérus artificiel qui n'existe pas encore à ce jour, mais qui a quand même des chances de devenir aussi possible en vue des progrès scientifiques. On ne sait pas quand. Mais quand même, ça peut arriver, et qui représenterait une dissociation totale de la reproduction et de la sexualité. Alors,
qui est déjà effective avec la contraception.
Dissociation qui ne serait pas forcément négative. Parce que d'un côté, ça résoudrait tous les problèmes de souffrance ou de mortalité des mères, parce que rappelons quand même que l'accouchement, il est douloureux, encore.
Ah, je pensais, ouais, et puis mortalité, il y a 80 femmes par an qui meurent en France.
Après, on meurt de moins en moins, parce qu'au Moyen-Âge, les chiffres étaient incroyables.
Il en reste 80.
On meurt presque plus. Il en reste quand même...
Il en reste 80 par an qui meurent en France.
Sur combien de naissances ?
Sur un peu moins de 800 000, on se reproduit moins en France en ce moment. Donc voilà. La natalité baisse. Mais c'est quand même 80.
Deuxième point positif, on va dire qu'on enlèverait les différences entre les hommes et les femmes. Les paternités gays seraient avantagées. Et puis, on deviendrait plus égal par rapport à l'enfantement entre hommes et femmes. Ça pourrait être un deuxième point positif.
Il y a une inégalité totale qui fait que je n'ai jamais vu un homme mourir au moment de l'accouchement. J'ai vu des femmes mourir. Il y a ça pour le moment, qu'il y ait une équité dans la prise en charge. Là, je suis d'accord pour un traitement équitable des gens. La différence entre l'équité et l'égalité étant extrêmement fondamentale. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un homme accoucher. J'en ai recousu quelques-uns qui tombent dans les pommes. Mais j'ai vu 3 femmes mourir, genre dead quick, sans résurrection, en 38 ans d'obstétrique. C'est la grosse différence, parce que ça sera le sujet d'une table ronde tout à l'heure, en termes de GPA, de paternité, etc. Il y a une asymétrie totale, et il y a une asymétrie que nous, les hommes, on doit comprendre, qui est que une femme accepte de porter pour une autre femme, parce qu'il y a quelque chose d'espèce de rite transcendantal, en disant « je comprends, j'ai fait des enfants, je veux bien porter pour quelqu'un d'autre ». Là où, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu un mec porter. Alors, dans le fantasme, on aurait qu'à me le greffer, etc. Non, faut arrêter, là aussi.
Ça a été écrit dans des textes de science-fiction.
Non, mais qu'on écrive des choses dans les textes de science-fiction, on va sur la Lune.
C'est possible pour des...
Heureusement qu'on est là pour dire des conneries.
Mais voilà. Exactement. Mais biologie...
Je veux bien en dire aussi.
Mais là, c'est ce qui est génial, c'est que la science-fiction, il n'y a pas de limite. Mais dans la vraie vie qui est la nôtre, avant qu'un mec dise « ouais, on va me l'implanter dans l'utérus, on n'aurait qu'à me faire une césarienne, on n'aurait qu'à... » Une fois qu'on a vécu une grossesse abdominale, c'est-à-dire un embryon qui se fixe sur le tube digestif, okay, là on est avec le placenta qui va envoyer des ramifications, surtout c'est juste une espèce de carnage épouvantable à l'intérieur.
Alors, j'ai pas très bien compris.
Compris que vous n'avez pas compris.
En fait, mais tout ce que je voulais dire, c'est que si l'utérus artificiel arrivait, dans ce cas, l'externalisation de la grossesse serait un enjeu égalitaire entre les hommes et les femmes. De façon
équitable.
Certaine, ça pourrait donner lieu, effectivement, à un certain nombre
c'est
de
tout.
Changements.
Après, je remets pas
tout
en question
à fait d'accord.
Que
de changements sociaux.
Complètement.
Ça changerait la parentalité, mais la parentalité est déjà en train de changer avec la PMA, avec la GPA, avec le mariage homosexuel qui est légal, donc qui permet à des gens, en les combinant avec des techniques, de fonder des familles qui ne sont pas la famille traditionnelle. Et si on ajoute les personnes transgenres, Je pense qu'il y a le cas de quelqu'un qui a transitionné de femme à homme, mais qui, ayant gardé son utérus, a pu porter à terme un enfant. Ce qui, il y a quelques années, nous aurait paru totalement invraisemblable et qui, je pense, paraît encore invraisemblable à beaucoup de gens. Sylvie ?
Oui, alors je trouve qu'on dit beaucoup de choses dans l'intérêt des mères, un peu dans l'intérêt des pères. Donc je vais prendre la parole au nom de l'embryon.
Voilà.
Je m'inquiète un peu pour lui parce que dans cette idée d'utérus artificiel, moi j'ai quand même entendu dire que bien avant sa naissance, un embryon a des perceptions sensorielles, qu'il entend de la musique, qu'il entend la voix de sa mère, qu'il reconnaît a priori dès la naissance, qu'il différencie sa langue maternelle, qu'il n'a pas tout à fait les mêmes sonorités que celles qu'il entendrait si on l'envoie dans un autre pays. Donc, il y a tout ce qui est sonore, il y a tout ce qui est mouvement, il y a tout ce qui est chimique, il y a des choses qui fluctuent dans un environnement biologique. Et je me dis, mais dans quel univers triste et stérile va se retrouver un embryon qui est dans un utérus artificiel.
C'est toute la question.
Quel humain diminué, appauvri et frustré allons-nous créer par cette voie-là?
Si Judith a des idées en tant qu'auteur, ça m'intéresse aussi. Parce que moi, j'en aurais, mais je ne suis pas là pour
Atlan,
ça. Donc.
En fait, Atlan, on ne sait pas. Tout simplement, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Il y a les mécanismes d'enfantement et de donner la vie. Il y a des choses qu'on peut expliquer par des mots, avec une approche scientifique. Et puis, il y en a d'autres qui sont complètement mystérieux, complètement inconnus. On ne connaît pas toutes les interactions mystérieuses entre une mère et son enfant lors de son développement intra-utérin. On ne sait pas. Atlan, spécialiste, encore pour se référer à lui, parce qu'il avait parlé de l'utérus artificiel, disait qu'on pourrait tout à fait imaginer que dans l'avenir, la plasticité cérébrale humaine d'un fœtus puis d'un embryon en développement dans une matrice artificielle se fasse et crée la possibilité de se développer pleinement sur le plan cognitif, psychocognitif, émotionnel, et qu'on pourrait arriver à avoir des enfants qui se seraient habitués à leur matrice. Mais encore une fois, on n'en sait pas, c'est complètement... Là, on est un petit peu dans la science-fiction. Pour le coup.
Totalement, oui, parce que moi, ce que j'imaginais, c'est effectivement qu'on si la l'ectogénèse est possible, autant créer pour les enfants qui se développeront un environnement plaisant. Je ne vois pas pourquoi, si on est capable techniquement de reproduire le liquide amniotique, le placenta, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des bouées autour, un environnement plaisant, des
samelles, clés USB,
les parents, il y aurait des comportements des parents changeraient
des
totalement.
Des smartphones à l'intérieur tout de suite.
Ouais non écrans. Non ça c'est pas cool le smartphone. Que les parents lui rendent visite à ce moment-là, c'est vrai que ça change totalement le rapport au corps puisque l'enfant n'est plus
Après,
dans le corps d'une personne.
Après le fait est qu'on ne connaît pas les risques iatrogènes de telle pratique si elle se développe comme pour l'exemple du petit agneau de la brebis qui ont subi un vieillissement prématuré. Donc on n'en connaît pas les risques, c'est de l'expérimentation totale comme la majorité des sciences de toute façon en général.
Mais je crois qu'on a clarifié cette histoire de vieillissement, c'est là, il y a une durée de vie potentielle qui est engrangée dans la cellule, et au fur et à mesure que le temps passe, il y a quelque chose.
Il me semble qu'il y avait, c'était en relation avec le type de cellule qui avait été utilisée et qui avait été utilisée, qui était déjà
donc,
des cellules adultes.
Clone, si on clone une brebis de 3 ans, le bébé a potentiellement des cellules qui ont 3 ans.
On
n'en est pas sûr de ça. Ah bon, parce qu'il y avait
faut encore faire des tests.
Non, mais après, l'intérêt des publications, c'est d'avoir des idées, mais comme c'est des idées pour lesquelles le niveau de preuve scientifique est proche d'un consensus d'experts, alors les avis d'experts, c'est un consensus à table dans la main au bistrot en disant on se réunit entre nous. C'est ce qu'on vous avez dans les articles, l'avis d'experts. Hein, pour faire des conférences de consensus, ça ressemble un peu à ça. Avant qu'on ait une vraie preuve de tout ça, il y a malheureusement du chemin. Moi, je suis totalement favorable à tout ce type d'expérimentation. Mais moi, je pense que je serai mort, mes enfants aussi, et les enfants de mes enfants, avant qu'on arrive à voir quelque chose. Ça vaut aller vite. À un moment, on a des frontières biologiques qu'on n'arrive malheureusement pas à franchir. Donc on se dise, je vais faire l'embryon de 14 jours. Qu'on essaye de faire, la seule chose, c'est que j'ai un paquet de cellules qui se bougent. Okay, alors l'embryon, à l'heure actuelle, quand on fait les FIV, avant on réimplantait à 48 heures, maintenant on réimplante à J5. Donc on a des blastocystes au cinquième jour. Après, ça ne marche pas si bien que ça. Le problème, c'est après, c'est l'implantation. Il faut qu'on continue à regarder. On a mis 7 et 14 jours et on accepte de travailler sur ce qui s'appelle l'embryon préimplantatoire. C'est ça l'histoire des 14 jours. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, la fécondation, on la met au milieu de cycle et l'implantation va se faire vers le 21e, 22e jour du cycle. Donc on est dans ces 14 jours. C'est pour ça que ça s'arrête là.
Au cours des âges, le regard sur la grossesse a changé.
Mais bien sûr.
C'est transformé. Oui. Avant, un accouchement était public. Enfin, peut-être que je résume un petit peu. J'imagine qu'au Moyen-Âge, un accouchement était public.
C'est quoi public ?
C'est-à-dire que les voisines, quand une femme la parturiente allait délivrer son bébé, les voisines arrivaient.
Il y a une baby shower.
Pardon ?
Une baby shower.
aider la femme, etc., etc. Bon, la médicalisation de la grossesse a beaucoup transformé les choses.
Ouais, avant,
la grossesse, elle est divisée en étapes successives. Que vous avez bien décrites au premier. L'imagerie médicale permet de voir à l'intérieur du ventre de la femme. Donc, on a toujours l'embryon et l'utérus sous contrôle, un petit peu. Récemment, alors c'était où déjà ? Je crois que c'était au Big Bang Santé du Figaro.
Je ne dis pas le
Figaro. Il y a deux semaines en arrière sur Paris. J'ai vu vraiment un outil d'imagerie. Ah non ! C'était pas. C'était ici. C'était il y a mercredi, je crois. Un chercheur d'un laboratoire d'imagerie médicale proposait en fait les images visuelles et vidéos de la formation d'un embryon et d'un utérus from scratch, cellule par cellule, et de son développement. Comme ça, c'était complètement bluffant.
Parce que c'est ce qui s'appelle le time lapse. À l'heure actuelle, quand on fait de la fécondation in vitro, avant, on allait regarder nos cultures toutes les 3 heures, 4 heures, etc. Donc, à 2 heures du mat, on n'y est pas forcément. Donc, du coup, on a inventé le time lapse, qui sont des petites caméras qu'on met au-dessus de l'embryon, puis on voit l'embryon, justement, qui part de 2, 4, 8, etc. On a ceux qui se divisent à bonne vitesse, ceux où on a l'impression qu'ils sont un petit peu lents, donc on sait ceux qui vont donner, ceux qu'on va pouvoir congeler, ceux qu'on va réimplanter en termes de frais, etc. Donc ça, c'est effectivement... Et après, on a des possibilités maintenant avec l'imagerie en écho de faire des choses. On peut passer à la 3D. Après, c'est l'acquisition d'images. Tout ça, c'est grâce au progrès de l'informatique. Il y en a même maintenant qui sortent... Vous faites votre embryon, puis après vous allez avec l'imprimante 3D comme il y a sur le stand de l'Inserm, et puis vous allez faire votre petit embryon.
Et un papa et une maman.
On peut faire plein de choses, mais bon, pour le moment, rien ne remplace l'utérus.
Alors, je voudrais juste rajouter un mot parce que le temps tourne.
Je vais donner la parole aux.
Est-ce qu'il y a une question là-bas ? Il y a une dame qui lève sa main depuis tout à l'heure.
D'accord. À ce moment-là, sauf si tu te fais très court.
En fait, c'était sur les nouveaux modes de parentalité qui changent de fait et déjà à ce jour, sans même se projeter sur l'utérus artificiel, par rapport aux nouvelles technologies de la reproduction, où derrière, on assiste à des conflits, des rivalités entre les parents d'intention, la mère porteuse, etc. Où déjà existent des zones de non-droit, en fait, entre les pays qui ont des réglementations, il est possible d'eux, et d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, les couples recourent à la réglementation d'autres pays et reviennent avec un enfant en question.
Ça se passe en France, parce qu'en France, la GPA est interdite.
Un couple lesbien qui décide d'aller faire une GPA en Belgique...
Ils vont faire une insémination artificielle.
Une insémination artificielle en Belgique revient en France, mais il n'y en a qu'une des deux qui peut être la mère.
Sauf si elles sont mariées, et maintenant ça pose le fait d'être mariée. Le mariage.
Vous connaissez la maternité à deux ?
Ouais. Le mariage fait qu'il y a à partir du moment où l'enfant est conçu dans le cadre du mariage, l'adoption par l'autre est automatique. C'est fait, c'est réglé depuis le texte de loi. Donc, pour être engagé là-dedans, l'insémination, c'est pas la GPA. La gestation pour autrui, je veux bien qu'on en parle, mais après, il y a la GPA compassionnelle, la GPA. Je crois qu'il y a une table ronde après là-dessus sur l'indisponibilité du corps, donc laquelle j'interviens tout à l'heure.
De fait, pour contourner, comme vous disiez, l'insémination mécanique, pour contourner les réglementations aussi.
L'intérêt d'aller faire son insémination en Belgique, c'est d'avoir du sperme récupéré autrement que dans une backroom parisienne avec une seringue de Doliprane. Parce que l'insémination, c'est comme ça que ça se fait. Vous ne verrez plus jamais la petite seringue de Doliprane de la même façon. On récupère du sperme. Je ne recommence pas le truc que j'ai déjà fait tout à l'heure. Donc vous l'aspirez, et l'avantage de la seringue de Doliprane, c'est qu'elle est non contondante, donc on se met du sperme. Donc ça, c'était les petits arrangements qui continuent à avoir lieu en France sans aucun problème.
Mais c'est vrai qu'observé par Françoise Héritier, anthropologue, déjà, ces possibilités de parentalité à plusieurs collectifs préexistaient dans certaines sociétés polygames.
Oui, bien sûr, oui.
Et aujourd'hui, on voit l'émergence aussi de parentalité à quatre, etc.
J'en ai régulièrement dans le service.
Donc, c'est vrai que tout devient possible.
Est-ce que ça change votre travail ?
Non, moi non, ça... Bon, je suis engagé dans le mouvement LGBT depuis longtemps, donc on est dans le guild gay et lesbien de Paris depuis plein de temps. Donc j'ai globalement, je dois avoir 4 à 5 couples de lesbiennes qui accouchent par mois dans mon service. Donc ça, c'est quelque chose de basique. Mais de temps en temps, donc il y a aussi un procréateur mâle au milieu, donc il a fallu, parce que l'intérêt en salle de travail, c'est de ne pas avoir quand même 50 000 personnes, donc on voulait qu'il y ait le couple, mais de temps en temps, le couple, il est à 3. Effectivement, de temps en temps, le couple, il est à 4, puisqu'il y a 2 mecs ensemble, 2 nanas ensemble, et tout ça, ça fait des parentalités croisées. Ouais, so what ? Donc, il a fallu que je change un peu l'état d'esprit de certains de mes collaborateurs, quelque peu ailleurs dans le... Voilà. Il faudrait que ceux qui lisent Le Figaro, quoi. Enfin, Non, j'ai rien. Non, je veux pas d'ennui, s'il vous plaît. Non, c'est... Bon, on peut lire Le Figaro, hein.
Bien, on va peut-être donner la parole à notre public qui a sans doute des questions à nous poser.
Quand tout à l'heure.
Il y avait une question là-bas tout à l'heure, quelqu'un qui nous le doit.
La dame qui est devant nous et après on passera.
Quand tout à l'heure vous évoquiez la possibilité d'un utérus artificiel et donc que les femmes n'aient plus à porter les enfants et donc le changement de statut que ça pourrait impliquer, j'ai trouvé que vous étiez assez optimiste et dans un cadre patriarcal où la femme est encore une ressource pour créer d'autres êtres humains, le fait de lui enlever ça, à quel point, au contraire, ça peut dévaloriser totalement sa place ?
Alors, c'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Rien que l'idée de l'utérus artificiel pose déjà énormément de problèmes. Il y a des mouvements chrétiens américains qui défendent l'utérus artificiel comme solution de sauvetage de l'IVG, où derrière, le statut de l'embryon aurait plus de droits que le statut de la mère qui aurait envie de se faire avorter.
Non,
je ne suis pas du tout optimiste par rapport à ça. Ça soulève une multitude de questions et de problèmes éthiques qui sont déjà très, très compliqués.
Désimplanter l'embryon dans une IVG ou autre chose, c'est le livre de Margins Clark qui s'appelle « La clinique du docteur H ». Qu'on m'a offert, je ne sais pas combien de fois, parce que mon nom commence par H. C'est-à-dire qu'il faut le désimplanter. Là, on est dans le fantasme, mais total. Okay, une fois qu'il est implanté, il est implanté, c'est pas récupérable. Donc là, ils sont dans un délire total. Non, le seul intérêt que je verrais éventuellement dans l'utérus artificiel, ça serait, on imagine quelqu'un qui décède, il y a des films comme ça qui ont été faits, où on va maintenir artificiellement en vie la femme qui vient de prendre un coup, je veux dire un coup au casque. Et là, je vous renvoie sur je saute du coq à l'âne, je suis un peu casse-pied. La loi romaine, à un moment, a fait qu'on s'est retrouvé avec des femmes qui chutaient à 8 mois de grossesse, donc qui en étaient en état de mort proche, et la césarienne a été inventée à ce moment-là, car on n'avait pas le droit de faire une sépulture de l'enfant et de la mère l'un dans l'autre, et on a sorti certains enfants vivants. Okay, la légende de Jules César, on l'oublie, césarienne veut dire césarée, qui veut dire coupée, ça n'a rien à voir avec Jules César, donc ça c'est fait. Donc je vous laisse juste sauter du coq à l'âne, donc la réimplantation dans l'utérus artificiel, éventuellement, mais on pourrait reparler de la greffe d'utérus et de la gestation pour autrui, on est dans la disponibilité du corps. Pour les femmes qui naissent sans utérus, ça existe, okay, c'est une probabilité d'un sur 5000, ça s'appelle la maladie de Rokitansky-Kuster-Rosser. Ça s'appelle les jeunes filles qui ont un sarcome, qu'on va opérer quand elles ont 15 ans, 16 ans, on va les empêcher de mourir, on leur retire leur sarcome, les ovaires sont toujours là, elles sont vivantes, donc avec une possibilité de procréer, puisqu'elles ont des ovaires, mais pas d'utérus. Et puis vous avez des choses un peu dramatiques qu'on vit en salle de travail, qui sont de sauver la vie d'une femme pour laquelle on n'a plus qu'une seule solution, c'est de faire une hystérectomie d'hémostase, leur dire « je retire l'utérus ». Et c'est comme ça que l'association dans laquelle je suis, encore une autre qui s'appelle Maya, Maya, pinceau, pour machin, est née chez moi. C'est-à-dire qu'après avoir fait une hystérectomie d'hémostase à une dame un lundi après-midi, le mardi matin, j'étais dans sa chambre en lui disant « Vous aurez des enfants ». Donc, on s'est revus après. Elle m'a dit « Mais ça n'allait pas ce jour-là, vous aviez fumé des trucs ». Je dis « Non, l'Angleterre, qui est mon pays d'origine, fait que ça fait partie des autorisations de GPA compassionnelle ». Donc depuis, Laure Camborieux, puisque j'ai le droit de donner son nom, etc., on a monté Maya, et puis maintenant les choses sont un petit peu plus importantes. Et puis vous avez le dernier type, parce qu'on a un, deux, trois, quatre, qui est reconnu en Angleterre, qui est l'utérus qui est présent, mais totalement impropre à toute nidation. Vous imaginez les fibromes, les adhérences, des machins, on ne peut rien faire dedans. Donc voilà, l'utérus artificiel, là, mais là, on est en train de développer de l'autre côté les tentatives de greffe d'utérus qui commencent à voir le jour. Le seul problème, c'est qu'il faut que ça soit des... Il faut greffer un utérus extrêmement compatible, parce que déjà, quand vous êtes enceinte, vous avez une demi-greffe de pas vous. Okay, vous êtes enceinte à moitié de vous, mais là, il y a une demi-greffe de votre conjoint. Je ne vous parle pas du nom de vos sites et l'accueil d'embryon, où là, c'est une double greffe de pas vous. Donc là, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Donc, en prenant l'utérus de sa maman, qu'on peut se faire greffer quand on est né sans utérus, éventuellement arriver à faire une grossesse, et éventuellement à ne pas mourir, on finit avec généralement une césarienne et l'hystérectomie à ce moment-là. C'est un projet... On commence à voir le jour, il y a des publications, c'est une voie de futur, avant l'utérus artificiel.
Donc l'utérus artificiel, ce serait une solution thérapeutique, finalement.
Yes.
Je passe la parole à... Il y avait une, voilà, quelqu'un qui a le micro là-bas.
Oui. Alors, moi, j'avais deux remarques. Déjà, la question de la parentalité, parce qu'effectivement, s'il y a du clonage et des utérus artificiels, est-ce qu'il faut vraiment des parents? On pourrait imaginer une société où un gouvernement décide que c'est lui qui fait la régulation des individus. Bon, c'est effectivement, j'espère, encore un peu de la science-fiction. Et puis, moi, le clonage m'interrogeait aussi sur le côté un petit peu banque d'organes. C'est pas mal d'avoir un jumeau. J'ai un foie qui commence à dysfonctionner. Ben, mon jumeau, il va me donner son foie. Bon, je pense que c'est aussi de la science-fiction.
Pas vraiment.
Non, là on n'est pas dans la science-fiction, puisqu'à l'heure actuelle, donc il y a une pathologie qui s'appelle la leucémie, hein, que tout le monde connaît, pour laquelle on a organisé les banques de cordons, puisque dans les cordons, vous avez des cellules souches, et il faut à l'heure actuelle un cordon pour greffer un enfant, deux cordons pour greffer un adulte. Globalement, la demande est à peu près de 8 000 à 9 000, 9 000 cordons par an sur les 800 000. On arrive à peu près à se débrouiller dans les centres universitaires. Donc oui, non, vous n'êtes pas du tout dans le fantasme. C'est ce que je vous appelais tout à l'heure, le clonage thérapeutique. Les cellules souches qui sont dans le cordon sont des cellules totipotentielles, qui sont des cellules à faible pouvoir immunologique. Donc du coup, on peut les orienter pour faire telle ou telle chose. Donc ça, oui, pour faire des greffes de foie, après, il suffit de moins picoler, on aura moins besoin de greffes de foie, quoi.
Le neurobiologiste Hervé Schneiweiss en discutait au préalable en disant qu'aujourd'hui, on inhibe chez le cochon certaines cellules qui se spécifieraient en organes de cochon pour implanter des cellules totipotentes humaines et qu'elles se spécifient en organes humains. Donc on se retrouve avec des cochons, par exemple, porteurs comme ça un petit peu d'organes humains qui seraient une solution au problème de don d'organes en attente de personnes en attente de greffe. Mais à savoir, après, les questions éthiques, c'est plutôt au sujet du cochon. Qui est-il? Encore un animal ou un être humain porteur d'organes? Enfin, ça soulève énormément à nouveau des questions éthiques.
Avant, on lui piquait son insuline. Hein. Maintenant, l'insuline est faite par le génie génétique et le colibacille. Mais il y a une trentaine d'années, l'insuline, c'était de l'insuline de porc. Ce qui, de temps en temps, pouvait, dans certaines religions, poser des soucis. C'était drôle. Tout le monde aura compris.
Oui.
C'est du vécu.
Bonjour, merci beaucoup, parce que je trouve ça vachement intéressant. J'avais juste deux petits commentaires. Moi, j'ai un petit bébé de 10 mois qui vient d'une donation d'embryo. Donc, génétiquement, pas connecté à moi ou à ma femme. Et ça a marché du premier coup. Et c'est intéressant parce qu'en relation de parentalité, par exemple, donc il y a les mamans. Et c'est nous, et on ne connaît pas les donateurs. Mais par contre, il y a toute une série de bouquins qui est sorti déjà pour comment expliquer à l'enfant après. Et on ne dit pas, les gens qui me demandent par exemple, mais c'est qui le vrai père et la vraie mère? On dit, bah, il n'y en a pas. C'est des donneurs, c'est pas les parents, c'est des donneurs. Il n'y a pas les vrais parents et les faux parents, quoi. Donc tout ça, c'est des questions vachement importantes, hein, parce que la société change. Et d'un certain côté, c'est intéressant de voir toutes les questions qu'il y a, mais s'il y a le clonage, il n'y aura pas de parents, etc. Et moi, ça me fait rigoler aussi d'un côté, parce qu'on a toute cette espèce de fantaisie romantique de ça prend un village pour élever un enfant et que il n'y a pas que les parents qui comptent, et c'est toute la communauté qui compte. Mais quand on commence à parler du clonage, tout à coup, l'idée est beaucoup moins romantique. Et pour finir, je voulais juste signaler, il y a une auteure que tout le monde connaît, qui est Marie Dariussec. Oui. Et Marie Dariussec, ce n'est pas une auteure de science-fiction. Et ça devrait d'ailleurs.
Mais presque, mais, parfois.
Mais elle a publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Zo. Et il y a deux nouvelles dans ce recueil qui traitent du clonage. Et il y en a une qui s'appelle Mon mari le clone. Et c'est une femme dont le mari meurt de manière très rigolote d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dedans, et elle se fait cloner son mari, et elle porte son mari. Donc là, on est complètement évidemment dans la science-fiction, mais c'est très intéressant parce que ça pose beaucoup de questions, et la science-fiction, ça pose surtout des questions, ça y répond pas, quoi.
Oui, bouleversement de l'ordre des généalogies, des filiations, comme ça, où on se retrouve vraiment un petit peu sur des modèles de parentalité, de filiation, de généalogie complètement éclatés.
Mais pour vous répondre, vous êtes la mère de votre enfant, puisque jusqu'à priori en France, on est dans le total mulliaire in utero. Donc le fait d'accoucher, en plus, il y a toutes les interrelations quand on parlait d'épigénèse. Il y a quand même énormément de choses qui ont fait que dans cet accueil d'embryon, vous soyez la mère, vous êtes là. Voilà.
Mais ça, j'en ai aucun doute, mais moi, j'habite aux États-Unis. Oui. Et même si mon nom est sur le certificat de naissance, on a fait quand même ce qu'on appelle le second adoption. Oui. Parce qu'on ne sait jamais, surtout en ce moment.
Et pour l'accueil d'embryons en France, vous savez que dans les fécondations in vitro, après une fois qu'on a des embryons surnuméraires, on les garde au congélateur et que chaque année, on fait appel aux parents en leur demandant ce qu'ils souhaitent faire avec la possibilité de soit une destruction, soit une utilisation pour la science dans un cadre de projet extrêmement encadré, soit dans la remise à adoption. Est-ce que vous savez le nombre d'embryons qui ont été adoptés l'année dernière ? 16.
Ah oui.
16 en France. Donc, à un moment, quand ça, vous avez la manif pour machin truc avec les drapeaux bleu, blanc, rouge et tout, qui sont là en train de dire ouais, ça va changer les choses. 16.
Donc, en surnuméraire ?
Mais parce non, dans les embryons. En accueil d'embryons en France, il y a 16 embryons qui ont été accueillis. 16 embryons.
Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui ont envie d'utiliser cette technique ou est-ce qu'il n'y a pas de donateurs ?
Il y a deux. Si. Alors, le problème, il est assez simple. On va retourner dans la vie est un long fleuve tranquille. Et imaginez que là, vous êtes un couple CSP+, vous avez des embryons en plus. Si tout d'un coup, on les réimplante dans la famille Groseille, mais comment cet enfant que nous avons conçu, qui est si génial parce que nous sommes géniaux, va être réimplanté dans la famille Groseille ? Pas cool. Donc voilà, il y a une espèce de fantasme en disant, mais cet enfant, par qui il va être adopté ? Au secours. Voilà, c'est un petit peu le souci. Donc il y a peu d'embryons qui sont, entre guillemets, abandonnés et remis à adoption. Et puis il faut savoir que on est toujours sur la jurisprudence Pironi, vous savez, le mec qui s'est retourné à Monaco, sur le fait qu'on est toujours dans le, a priori non, pour le moment, de la réimplantation post-mortem. Il n'y a pas de fécondation in vitro post-mortem. Putain, ça casse.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Ah
ouais, parce
il y a
que là,
ça aussi.
Parce que
c'est incroyablement.
Nous, on a eu l'histoire dans le service où vous avez la ponction, mettons un lundi, et le mec il se tôle en moto le mardi. Il se tôle, mort, là encore une fois. Donc du coup, on s'est retrouvé avec des embryons. La dame, ouais, mais je veux qu'on me les réimplante. Non, madame, la loi ne nous permet pas, même s'il y a 24 heures, votre mari vient de mourir à moto hier. Donc on est dans une histoire dramatique en disant. Donc ça aussi, ça fait partie des réflexions. C'est le côté un peu obscur de notre métier qui n'est pas forcément rigolo tous les jours. Il est 9h58.
On a la plaque.
C'est parce qu'on a la pendule là-bas.
Je la vois. Je la vois, merci.
Il va falloir en entendre bientôt. Il reste une question.
La dernière question hyper courte, si on y arrive.
Bonjour à tous, merci pour cette conférence. Je voulais vous poser la question. On m'a dit récemment que la mère avait encore des cellules de son enfant une vingtaine ou une trentaine d'années après la naissance de son enfant et dont on ne connaissait pas le lien, ou en tout cas l'utilité pour la mère.
C'est l'instinct. C'est vrai,
c'est ce qui fait qu'à un moment dans le diagnostic des anomalies chromosomiques, une femme qui a malheureusement mis au monde ou une interruption médicale de grossesse pour une trisomie 21, on avait encore des cellules trisomiques qui se baladaient. Et donc ça a été pendant longtemps un frein. On se disait, mais il ne faut pas qu'on prenne un risque de fausse couche. Maintenant, on est passé dans le dépistage prénatal non invasif, c'est-à-dire que dans le sang des mères, il y a de l'ADN fœtal libre circulant, de même qu'il y a de l'ADN maternel libre circulant. circulant. Et comme a priori, la patiente qu'on a en face de nous n'est pas porteuse d'une trisomie 21, quand tout d'un coup, il y a un surcroît d'expression du 21, on sait à 99,8% qu'il y a une trisomie ou à 100% qu'il n'y en a pas. Donc il a fallu trouver quelque chose à une demi-vie très courte. Oui, il y a toujours des cellules dans le sang maternel qui datent de la grossesse d'avant. À quoi elles servent? Mais sinon, vous allez fermer l'INSERM. Si tout d'un coup, là, aujourd'hui, on a répondu à toutes les questions, tous mes potes de l'INSERM, vous les mettez au chômage. C'est pas gentil, quand même.
Ce n'est pas notre intention.
Il est 9h,
10h. Oui, donc merci à tous d'être venus.
Merci.